Chapitre 2. La pauvre Marguerite était à peine consolée de cette catastrophe de la Mole, quand une catastrophe non moins terrible la revint plonger dans un désespoir pareil. Bussy, le brave Bussy, Bussy d'Amboise, fut assassiné par le comte de Montsoreau, qui força sa femme, Diane de Méridor, à lui donner un rendez-vous, et, ayant amené 20 hommes, fit tuer Bussy par ces 20 hommes. Ah, celui-là, convenons-en, sa perte pouvait bien être le désespoir d'une femme, cette femme fut-elle reine. La pauvre Marguerite, qui, d'après ses mémoires, était si innocente qu'elle ne savait pas, 8 jours après son mariage, si son mariage était consommé, qui justifie l'ingénuité de sa réponse sur ce que la reine Catherine appelait « être homme », en disant qu'elle était, dans le cas de cette Romaine, qui répondit aux reproches que lui faisait son mari de ne l'avoir pas averti qu'il avait la laine mauvaise, « je croyais que tous les hommes l'avaient pareil, ne m'étant pas approché d'autre que de vous. » La pauvre Marguerite n'a pas le courage de renier Bussy. « Il était né, dit-elle dans ses mémoires, pour être la terreur de ses ennemis, la gloire de son maître et l'espérance de ses amis. » C'est que lui, de son côté, aimait grandement cette reine Marguerite qui lui rend ce bel hommage. Un jour, dans un duel acharné qu'il avait avec le capitaine Page, officier du régiment de Lascoux, tenant ce capitaine sous lui et prêt à le tuer pour accomplir le serment qu'il avait fait qu'il ne mourrait que de sa main, celui-ci s'écria « Au nom de la personne du monde que vous aimez le mieux, je vous demande la vie. » La demande lui alla droit au cœur et, levant à la fois le genou et l'épée, « Va donc chercher par tout le monde, lui dit-il, la plus belle princesse et dame de l'univers et te jette à ses pieds et la remercie et dis-lui que Bussy t'a sauvé la vie pour l'amour d'elle. » Et le capitaine Page, sans demander quelle était cette belle dame et princesse, s'en alla droit à Marguerite de Valois et, se mettant à genoux, la remercia de lui avoir sauvé la vie. Aussi, comme elle aimait son brave Bussy, la belle reine. Elle raconte dans ses mémoires qu'un jour, lui 20e, il affronta 300 hommes et ne perdit qu'un ami, encore, ajouta-t-elle, le brave Bussy avait-il son bras en écharpe. Henri IV, qui semblait avoir pris son parti sur les équipées de sa femme, fut une fois cependant impitoyable pour elle, et ce fut à propos de Bussy. Peut-être Henri IV, courageux par force morale, ne pouvait-il point pardonner à ce héros, courageux par tempérament, d'être mieux doué que lui par la nature. Marguerite avait, pour la servir dans ses amours avec Bussy, une fille de qualité dont elle avait fait non seulement sa confidente, mais encore son agente. C'était Gillonne Goyon, fille de Jacques de Matignon, maréchal de France, et que l'on appelait familièrement la Torigny. Le roi Charles IX, poussé par Henri IV, prit en haine la pauvre fille et exigea son éloignement. La Torigny fut donc renvoyée, malgré les réclamations et les larmes de sa maîtresse, et elle se retira chez un de ses cousins, nommé Châtelat. De son côté, Bussy avait reçu l'ordre de quitter la cour. D'abord, il refusa d'obéir, mais sur les instances du duc d'Alençon à qui il appartenait, il finit par se décider à cet exil. Ce fut une grande tristesse pour Marguerite et qui rejaillit sur Henri IV. Voyez plutôt ce qu'en dit la reine de Navarre dans ses mémoires. Bannissant toute prudence de moi, je m'abandonnai à l'ennui et je ne pus plus me forcer à rechercher le roi mon mari, de sorte que nous n'habitions plus et ne parlions plus ensemble. Par bonheur, cet état de contrainte ne dura pas longtemps. Le 15 septembre 1575, le duc d'Alençon s'évada de la cour et, quelque temps après, le roi de Navarre, prétextant une chasse du côté de Senlis, eut le bonheur d'en faire autant. Le roi Henri III, c'était le roi Henri III revenu de Pologne à la mort de Charles IX qui régnait alors, le roi Henri III fut furieux. Il chercha sur qui faire tomber sa colère. Le pauvre Torigny se trouvait sous sa main. Il prétendit, s'appuyant sur je ne sais quelle raison, que la jeune fille avait aidé cette double fuite et envoya des hommes à la maison de Châtelain avec ordre de noyer la coupable dans une rivière qui coulait à quelques centaines de pas de cette maison. C'en était fait de la malheureuse. Les cavaliers, après s'être emparés du château, s'étaient emparés d'elle et la liaient sur le cheval qui devait l'emporter, lorsque deux officiers du duc d'Alençon, La Ferté et Avantigny, qui allaient rejoindre le prince, rencontrèrent les valets de Châtelas, alarmés et fuyants. Ceux-ci leur racontèrent tout, et les officiers coururent aussitôt à toute bride, avec leurs gens, dans la direction qu'on leur indiquait, et ils arrivèrent au moment où la Torigny, déjà descendue de cheval, était emportée vers la berge de la rivière. Il va sans dire qu'elle fut sauvée. Ce n'était point sans raison que le successeur de Charles IX en voulait à Henri de Béarn. Il s'était passé, lors de la mort de Charles IX, une chose étrange et qui avait laissé une profonde impression à la cour. « Allez-moi chercher mon frère », avait dit Charles IX mourant. La reine-mère lui envoie chercher M. d'Alençon. Charles IX jette un regard de côté sur lui, un de ses regards à la Charles IX. « J'ai demandé mon frère, » dit-il. « N'est-ce donc pas moi qui suis votre frère ?»« Non, » répond Charles IX, « mon frère, celui que j'aime et qui m'aime, c'est Henri de Béarn. » Force fut d'envoyer chercher celui que demandait le roi. Catherine ordonna de le faire passer par la voûte où étaient les arquebusiers. Le Béarnais eut grand peur, mais on le pousse en avant. Il entre dans la chambre du roi qui lui tend les bras. Nous avons dit la facilité de l'arme de Henri, il se jette sur le lit en sanglotant. « Vous avez raison de me pleurer, lui dit Charles, car vous perdez un bon ami. Si j'avais cru ce qu'on me disait, vous ne seriez plus en vie. Mais je vous ai toujours aimé. Ne vous fiez pas à... » La reine-mère l'interrompit. « Ne dites pas cela, monsieur !»« Madame, je le dis car c'est la vérité. » « Croyez-moi, mon frère aimé, je me fie en vous seul, de ma femme et de ma fille. Priez le Seigneur pour moi. Adieu. » Celui auquel Henri de Béarn ne devait pas se fier, c'était Henri de Valois. Aussi, sauvé des mains de Henri de Valois, Henri de Béarn courut-il tout d'une traite jusqu'en Guyenne. Une fois arrivé en Guyenne, Henri, qui était parti sans prévenir sa femme et sans lui dire adieu, lui écrivit, dit l'auteur des mémoires historiques et critiques, une lettre fort honnête où il lui demandait le secours de son crédit près du roi et des nouvelles de la cour afin de régler ses démarches sur ce qu'elle lui apprendrait. La bonne reine Marguerite pardonna tout et arrangea les affaires de son frère le duc d'Alençon et de son mari le roi de Navarre, tout en faisant assassiner, à ce que l'on assure, son ennemi Dugast. L'accusation est dure, mais la chose n'était point rare à cette époque, et l'assassinat, comme on dit aujourd'hui, était très bien porté. Voici, au reste, ce que Marguerite dit de ce Dugast dans ses mémoires. Le Gast était mort, ayant été tué par un jugement de Dieu, lorsqu'il suait une diète. Comme aussi c'était un corps gâté de toutes sortes de vilenies qui fut donné à la pourriture qui dès longtemps le possédait, et son âme au démon, à qui il en avait fait hommage par magie et toutes sortes de méchancetés. S'il faut en croire Brantôme, ce Dugast était l'homme le plus accompli de son temps. Il est vrai que Dugast était le favori de Henri III et que Brantôme, la flatterie incarnée, flatter le favori même au-delà de la mort. Le roi ne vivait-il pas ? Dugast fut tué quelques jours après le départ de Henri IV, dans sa maison, pendant qu'il était malade, par Guillaume Duprat, baron de Vitaux. Desportes, l'auteur de la charmante villanelle « Rosette pour un peu d'absence » que chantait Monsieur le duc de Guise 5 minutes avant d'être tué, a fait sur cet assassinat de Dugast un assez beau sonnet qui finit par ces 3 vers. Enfin, la nuit, au lit, faible et mal disposé, se vit meurtrir de ceux qui n'eussent pas osé en plein jour seulement regarder son visage. Soit retour vers son mari, soit crainte d'être broyée entre les débats politiques, Marguerite, au grand étonnement de tout le monde, demanda à aller rejoindre Henri en Guyenne, ce qui lui fut refusé par le roi sous prétexte qu'il ne voulait point que sa sœur vécût avec un hérétique. Enfin, la reine-mère, ayant décidé qu'elle irait elle-même en Guyenne pour négocier avec Henri, Marguerite obtint de l'accompagner dans ce voyage. Mais sans doute, la reine-mère ne comptait point assez sur les séductions de sa fille, si séduisante que fût sa fille, car elle emmena avec elle ce qu'elle appelait son escadron volant, escadron des plus jolies filles du royaume, et dont l'effectif, au dire de Brantôme, montait parfois au nombre de 300. C'était un puissant moyen de séduction pour la reine Catherine de Médicis que ce fameux escadron volant, dont il est parlé dans les mémoires et pamphlets du temps. En effet, Alexandre a bien résisté à la femme et aux filles de Darius, Scipion, à cette belle Espagnole fiancée d'Alucius et dont l'histoire a oublié de nous conserver le nom, Octave a bien résisté à Cléopâtre et Napoléon à la belle reine Louise de Prusse. Mais le moyen qu'un homme, fût-il général, roi ou empereur, résiste à un escadron de 300 femmes plus belles et plus séduisantes les unes que les autres, commandées par un capitaine tel que Catherine de Médicis, certes, un homme du tempérament de Henri IV, dont la principale vertu n'était pas la continence, devait succomber. Il succomba. La belle Daïel eut les honneurs du triomphe. C'était une grecque de l'île de Chypre, laquelle île a, voilà tantôt 3000 ans, donné son nom de Cypris à Vénus. Tout enfant, elle avait joué sur les ruines d'Amatonte, de Paphos et d'Idalie, et quand la ville, en 1571, avait été prise et mise à sac par les Turcs, elle s'était heureusement sauvée sur une galère vénitienne. Recommandée à la cour de Catherine, celle-ci l'avait trouvée d'une merveilleuse beauté, et, jugeant que cette beauté pourrait la servir, l'avait engagée dans son escadron volant. Elle et Madame de Sauve, dit d'Aubigné, furent les deux jolies et adroites personnes que la reine-mère employa pour amuser Henri IV au voyage qu'elle fit en Gascogne en 1578. Par bonheur pour les affaires des Huguenots, Marguerite, qui protégeait toujours son mari, même au milieu des infidélités dont elle l'accablait, par bonheur, disons-nous, Marguerite se chargea de faire le contrepoids de cette passion de Henri pour la belle grecque. Elle séduisit le conseiller Pibrac, tout chaud à cette époque de la célébrité que lui avaient donnée ses quatrains moraux, qui venaient d'être imprimés 4 ans auparavant. C'était un homme fort important que messire Guy Dufour, seigneur de Pibrac, qui avait représenté la France au Concile de Trente avec le titre de juge-mage, et qui, y ayant défendu les libertés de l'Église gallicane, avait été fait avocat général, puis conseiller d'État, puis avait suivi Henri III en Pologne, et était revenu de Pologne avec lui, et, envoyé par lui, venait, après avoir défendu, comme nous l'avons dit, les libertés de l'Église gallicane au Concile de Trente, défendre les intérêts des catholiques aux conférences de Nérac. Marguerite n'oublia point les services rendus à son mari par le brave conseiller. Elle le fit plus tard président à Mortier, et son chancelier et celui du duc d'Alençon. C'est dans l'histoire, et non dans cette chronique, qu'il faut aller chercher les résultats des conférences de Nérac, les articles du traité et l'influence que ce traité eut sur les affaires du temps. On sait que nous avons mission de nous occuper de toute autre chose. Le traité signé, les conférences fermées, la reine-mère passa en Languedoc et la cour du roi de Navarre se rendit à Pau en Béarn. Nous avons donné, ou à peu près, la liste des amants de Marguerite. Essayons de donner la liste des maîtresses de Henri IV. De son séjour en Béarn, antérieur à son mariage, on n'a souvenir que d'une amourette de petite fille et de jeune homme. Tout le monde connaît le nom de Fleurette, sans savoir d'elle autre chose, sinon qu'elle était la fille d'un jardinier de Nérac, que Henri de Béarn l'aima, et qu'elle aima Henri de Béarn. Rien de positif ni d'authentique dans cet amour, pas même le nom de l'héroïne. Fleurette, dit l'auteur des anecdotes des reines et régentes de France, nom vrai ou imaginé de la fille du jardinier du château de Nérac, assez jolie pour amuser le roi de Navarre. Puis vient mademoiselle de Tignonville, fille de Laurent de Montuon. Celle-là fut, non pas la maîtresse, mais l'amante du roi de Navarre. Les résistances étaient rares dans ce beau temps où l'amour était la troisième religion, si elle n'était pas la première. Consignons celle-là. Elle est, d'ailleurs, plus authentique que l'histoire de Fleurette. C'est Sully et d'Aubigné qui en font foi. Le roi de Navarre, dit Sully, s'en alla en Béarn sous prétexte de voir sa sœur. Mais, en effet, on croit qu'il y était attiré par la jeune Tignonville dont il faisait lors l'amoureux. Elle résista fermement aux attaques du roi de Navarre, et ce prince, qui s'enflammait en proportion des obstacles qu'il trouvait au succès, employa près de la jeune Tignonville toutes les ressources d'un amant passionné. Quelles étaient ces ressources d'un amant passionné? D'Aubigné va nous le dire. C'est lui-même qui parle. Sur ce point, étant commencés les amours du jeune roi et de la jeune Tignonville, qui, tant qu'elle fut fille, résista vertueusement, le roi voulut y employer D'Aubigné, ayant posé pour chose sûre que rien ne lui était impossible. Mais celui-ci, assez vicieux en grande chose et qui peut-être n'eût point refusé ce service par caprice à un sien compagnon, se révolta tellement contre le nom qu'on lui voulait faire prendre et l'emploi qu'on lui voulait donner, que les caresses démesurées de son maître ou ses infinies supplications jusqu'à joindre les mains devant lui à genoux ne le purent émouvoir. Voilà donc le roi de Navarre repoussé et obligé d'en revenir à Madame de Sauve. C'était au reste un charmant pis-aller. Charlotte de Beaune de Semblançay, dame de Sauve, était non seulement une des plus belles, mais encore une des plus séduisantes créatures de la cour, et il ne faut pas, sur ce point, croire ce que dit d'elle dans ses mémoires la reine Marguerite, dont elle fut deux fois la rivale. Une fois dans ses amours avec le duc d'Alençon, une autre fois dans ses amours avec Henri de Navarre. Elle était petite fille du malheureux Semblançay, exécuté sous François Ier, et tenait son charmant nom de dame de Sauve de Simon de Fize, baron de Sauve, son mari. Elle n'eut point l'idée de résister comme la jeune Tignonville. La résistance n'était pas dans les habitudes de cette belle personne. Elle fut la maîtresse déclarée du roi de Navarre pendant que celui-ci était consigné au Louvre avec le duc d'Alençon, et son amour fit passer plus rapide les heures de prison du captif et même, assure-t-on, des deux captifs. Il paraît que cette médisance n'est pas tout à fait une calomnie, car voici ce qu'on trouve écrit de la main de Henri IV dans les mémoires de Sully. Nos premières haines, avec M. d'Alençon, commencèrent dès lors que nous étions tous deux prisonniers à la cour et que, ne sachant à quoi nous divertir, parce que nous ne sortions pas souvent et n'avions d'autre exercice que de faire voler des cailles dans ma chambre, nous nous amusions à caresser les dames, en sorte qu'étant devenus tous deux amoureux d'une même beauté qui était Madame de Sauve, elle me témoignait de la bonne volonté et le rabrouait et le méprisait devant moi, ce qui le faisait enrager. Leur haine devint telle qu'ils furent sur le point de s'égorger dans un duel sans témoin, ce qui eût bien pu arriver si, tout prudent, nous l'avons dit, qu'était Henri IV, le duc d'Alençon n'eût été encore plus prudent que lui. Cette haine produisit un singulier effet. C'est que, horriblement jaloux l'un de l'autre, ils cessèrent complètement de l'être des étrangers. De sorte, dit Marguerite dans ses mémoires, de sorte que, quoique la dame de Sauve fût aimée du duc de Guise, de Dugast, de Souvré et de plusieurs autres, tous plus aimés que le roi de Navarre et le duc d'Alençon, ceux-ci n'y pensaient point et ne craignaient que la préférence que l'un pouvait avoir sur l'autre. Henri en était au plus fort de cet amour quand il se sauva du Louvre. Soit influence de Madame de Sauve, soit crainte de trahison, il partit même sans prévenir sa femme. Il eût bien voulu au moins enlever sa maîtresse, mais ce fut chose impossible. La belle Dayelle vint apporter un instant de diversion dans le cœur du roi, dit Marguerite, étant éloignée de sa Circé, dont les charmes avaient perdu leur force par l'éloignement. Mais la belle Dayelle ayant suivi la reine-mère, la correspondance se renoua, et ce fut la dame de Sauve qui, à son tour, prit la fuite de Paris pour venir rejoindre le roi à Pau. Par malheur, elle avait tardé, et dans un voyage que le roi avait fait à Agen, il était devenu amoureux de Catherine du Luc. C'était la plus belle fille de la ville, et sa beauté fut pour elle un sujet de misère. Henri IV en eut une fille. Mais les événements l'ayant séparée d'elle et Henri IV ayant oublié cette aventure, la mère et l'enfant moururent de faim. Ah, c'était un amant, un ami, un roi fort oublieux que Henri IV. Et d'Aubigné en sait quelque chose, fort avare en outre. Le roi le chargea, vers ce temps, d'une mission en Gascogne. D'Aubigné voulut y paraître en véritable seigneur qu'il était. Il y mangea 7 ou 8 000 livres de son patrimoine. À son retour, il s'attendait bien, si avare que fût son maître, à être remboursé et récompensé. Mais pour toute gratification, Henri IV lui donna son portrait. D'Aubigné, au bas du portrait, écrivit ces 4 vers. « Ce prince est d'étrange nature. Je ne sais qui diable l'a fait, car il récompense en peinture ceux qui le servent en effet. » En quittant Agen, Henri IV y avait oublié non seulement la pauvre Catherine du Luc, mais encore, dit D'Aubigné, un grand épagneul nommé Citron qui avait accoutumé de coucher sur les pieds du roi, et souvent entre Frontenac et D'Aubigné, cette pauvre bête qui mourait de faim lui vint faire chair, de quoi ému il la mit en pension chez une femme et lui fit coudre sur son collier le sonnet suivant. « Le fidèle Citron, qui couchait autrefois sur votre lit sacré, couche or sur la dure. C'est le fidèle chien qui a pris, de nature, de faire des amis et des traîtres le choix. C'est lui qui, les brigands effrayés de sa voix, des dents qui meurtrissaient. D'où vient donc qu'il endure la faim, le froid, les coups, les dédains et l'injure, paiement coutumier du service des rois? Sa fierté, sa beauté, sa jeunesse agréable le fit chérir de tous, mais il fut redoutable à vos haineux, aux siens pour la dextérité. Courtisans qui jetez vos dédaigneuses vues sur ce chien délaissé, mort de faim par les rues, attendez ce loyer de la fidélité. » Par bonheur pour le pauvre Citron, Henri passait le lendemain à Agen. On le mena au roi, qui pâlit, dit D'Aubigné, en lisant cet écrit. Il est probable que cette pâleur assura une rente viagère à Citron. D'Aubigné n'en dit pas davantage sur lui. Henri IV s'habitua peu à peu à ce genre de reproches et, après avoir pâli, ne se donna plus même la peine de rougir pour si peu. Il est vrai que c'était quelques années après qu'arriva l'anecdote que nous allons raconter. « Une nuit, dit D'Aubigné, me trouvant couché dans la garde-robe de mon maître avec le sieur de la Force, ce même Caumont qui avait échappé miraculeusement à la Saint-Barthélemy, dont Voltaire a écrit l'aventure en 6 mauvais vers et qui mourut maréchal de France en 1652, âgé de 93 ans. « Une nuit, dit D'Aubigné, me trouvant couché dans la garde-robe de mon maître avec le sieur de la Force, je lui dis à plusieurs reprises. « La Force, notre maître est un ladre vert et le plus ingrat mortel qu'il y ait sur la surface de la terre. » Et lui, qui était à moitié endormi, demanda « Que dis-tu, D'Aubigné ?» Le roi, qui avait entendu le dialogue, répondit pour lui « Il dit que je suis un ladre vert et le plus ingrat mortel qu'il y ait sur la terre. Que vous avez donc le sommeil dur, la Force ?» De quoi, ajouta D'Aubigné, parlant de lui-même, de quoi l'écuyer resta un peu confus. Mais son maître ne lui fit point pour cela plus mauvais visage le lendemain, mais aussi ne lui en donna point un quart d'écu davantage. Voilà un coin du caractère de Henri IV peint de main de maître. Merci, D'Aubigné. L'histoire privée et même politique de Henri IV est l'énumération de ses amours et de ses amitiés. Seulement, on le trouve constamment ingrat en amitié, volage en amour. À Catherine du Luc succéda la femme de Pierre Martinus, que du nom de son mari, on appelait Martine. Son nom, la complaisance de son mari et une grande réputation de beauté qui avait rendu amoureux d'elle le chancelier de Navarre, Dufay, voilà tout ce qui reste d'elle. Puis vint Anne de Balzac, fille de Jean de Balzac, seigneur de Montaigu, surintendant de la maison de Condé. Elle épousa François de Lille, seigneur de Trégny. Mais la chronique scandaleuse se contente de la désigner sous le nom de la Montaigu. Puis Arnaudine, sur laquelle on trouvera d'assez singuliers renseignements à la page 129 du tome 1er de la Confession de Sancy. Puis la demoiselle de Rebourg, fille d'un président de Calais. Celle-ci est fort maltraitée par Marguerite. Il est vrai que ses amours eurent lieu avec le roi pendant la présence de Marguerite à Pau. « C'était, dit la reine de Navarre, une fille malicieuse qui ne m'aimait point, me faisant tous les jours les plus mauvais offices qu'elle pouvait. » Mais le règne de Rebourg ne fut pas long. Le roi et la cour quittèrent Pau, où la pauvre fille tomba malade et, demeurée souffrante, fut obligée de rester. Délaissée, elle mourut à Chenonceau. « Cette fille venant d'être fort malade, dit Brantôme, la reine Marguerite la visita, et qu'ainsi qu'elle voulut rendre l'âme, l'admodesta, et puis dit « Cette pauvre fille endure beaucoup, mais aussi a-t-elle fait bien du mal ?» Ce fut son oraison funèbre. Françoise de Montmorency Fausseux, plus connue sous le nom de la Belle Fausseuse, lui succéda. Il faut voir dans les mémoires de Marguerite la peinture faite par elle de cette charmante petite cour de Nérac. C'est à en faire venir l'eau à la bouche des plus dégoûtés. Elle était composée de tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus galant dans le Midi. Marguerite de Navarre et Catherine, sœurs de Henri IV, en étaient les reines. C'était un singulier mélange de catholiques et de protestants. Mais pour le moment, il y avait trêve aux guerres de religion. Les uns allaient aux prêches avec le roi de Navarre, les autres à la messe avec Marguerite, et comme le temple était séparé de l'église par une promenade charmante en manière de bosquet, on se rejoignait dans de délicieuses allées de myrtes et de lauriers, sous des massifs de chênes verts et d'arbousiers, et une fois là, on oubliait le prêche et la messe, Luther et le pape, et l'on sacrifiait, comme on disait alors, au seul Dieu d'amour. La belle fausseuse sacrifia tant et si bien qu'elle se trouva enceinte. Par bonheur, Marguerite, fort occupée du vicomte de Turenne, s'inquiétait assez peu de ce que faisait son mari. Cependant, l'affaire était embarrassante. Fausseuse faisait partie des dames de la reine. Or, toutes les dames de la reine couchaient dans ce qu'on appelait la chambre des filles. Enfin, les deux amoureux s'en tirèrent, grâce à une complaisance de la bonne Marguerite. Laissons-la raconter elle-même l'aventure. Le mal lui prit un matin au point du jour, étant couchée en la chambre des filles. Elle envoya quérir son médecin et le pria d'aller avertir le roi mon mari, ce qu'il fit. Nous étions toutes couchées en une même chambre, en divers lits, ainsi que nous étions accoutumées. Comme le médecin lui dit cette nouvelle, il se trouva fort en peine, ne sachant que faire, craignant d'un côté qu'elle ne fût découverte, de l'autre qu'elle ne fût mal secourue, car il l'aimait fort. Il se résolut enfin de m'avouer tout et me pria de l'aller secourir, sachant bien que, quoi qu'il se fût passé, il me trouverait toujours prête à le servir en ce qui lui plairait. Il ouvre mon rideau et me dit « Mamie, je vous ai scellé une chose qu'il faut que je vous avoue. Je vous prie de m'en excuser, mais obligez-moi tant que de vous lever tout à cette heure et aller secourir Fausseuse qui est fort mal. Vous savez combien je l'aime. Je vous prie, obligez-moi en cela. » Et Marguerite se leva et secourut la pauvre Fausseuse, laquelle accoucha d'une petite fille qui arriva morte, tant sa mère s'était serrée pour dissimuler son état. Aussitôt l'accouchement opéré, on reporta la malade dans la chambre des filles. Henri espérait ainsi qu'on ne se douterait de rien. Il va sans dire qu'on s'en douta si peu que le même jour, tout Nérac sut la nouvelle. Les amours de Henri avec Fausseuse durèrent 5 ans, après lesquels ils se quittèrent tous deux d'un commun accord. Henri pour devenir amoureux de la comtesse de Guiche, Fausseuse pour épouser François de Broc, seigneur de Saint-Marc. Dès lors, la belle Fausseuse s'enfonce et disparaît dans la nuit du mariage, presque aussi épaisse pour elle que celle de la mort, puisqu'on ignore, à partir de ce moment, où elle vit et où elle meurt. Mais, avant d'en arriver à la belle comtesse de Guiche, plus connue sous le nom de Corisande, disons encore quelques mots de Marguerite. Cette bonne intelligence des deux époux, que n'avait pu troubler la publicité de leurs amours respectifs, s'obscurcit à l'endroit des matières religieuses. La cour était à Pau, ville presque entièrement protestante. Il en résultait que les deux religions n'avaient plus, comme à Nérac, ville neutre, chacune son temple. Tout ce que l'on permit à Marguerite fut de faire dire la messe au château, dans une petite chapelle qui contenait à peine 6 ou 7 personnes. Les rares catholiques de la ville espéraient, du moins, pouvoir assister par fraction à la messe. Mais à peine la reine était-elle dans l'église, qu'un nommé Lepin, zélé huguenot, intendant du roi de Navarre, faisait lever le pont. Cependant, le jour de la Pentecôte de l'an 1579, quelques catholiques parvinrent à se glisser dans la chapelle et, par cette pieuse maraude de la parole céleste, à entendre la messe. Les huguenots, au pouvoir, sont non moins persécuteurs que les catholiques, témoin le bûcher du pauvre Servet à Genève. Les huguenots les découvrirent, informèrent Lepin de cette infraction à ses ordres, et, en présence même de la reine, on entra dans la chapelle, on arrêta les catholiques, et on les conduisit, en les maltraitant, à la prison de la ville. Marguerite s'en plaignit au roi son mari. Lepin intervint et parla avec une hauteur que la reine traita d'insolence et que le roi se contenta de qualifier d'indiscrétion. Mais la reine, qui connaissait sa force, insista, exigeant que les prisonniers catholiques fussent mis en liberté. Lepin l'avait insultée, elle exigea que Lepin fût chassé. Henri, après s'être bien débattu, fut obligé de lui donner satisfaction sur ces deux points. Mais de cette exigence, il prit contre sa femme ce profond ressentiment qui dicta plus tard à d'Aubigné le divorce satirique et, de l'indifférence où ils vivaient, ils passèrent à la désunion la plus marquée. La reine se retira à Nérac et, comme depuis 1577 les hostilités avaient recommencé, elle obtint que Nérac fût traité en ville neutre par les catholiques et les protestants et qu'à 3 lieues aux environs, il ne fut fait aucun acte d'hostilité, mais à la condition que le roi de Navarre ne s'y trouvât point. Par malheur, une intrigue amoureuse du roi le conduisit à Nérac. Biron le sut, et au moment où il faisait attaquer la suite du roi, un boulet de canon vint frapper la muraille à quelques pieds au-dessous du parapet d'où Marguerite regardait l'engagement. Marguerite ne pardonna jamais cette inconvenance à Biron. Cette 7e guerre civile fatiguait Henri III au-delà de toute expression. C'était peut-être de tous les rois fainéants que compta la France, et le nombre en est grand, celui qui désirait le plus le repos. Ce fut, comme par une punition anticipée de ses étranges défauts, celui peut-être dont le règne fut le plus agité. Enfin, il avisa que rien n'irait bien que si Henri et d'Alençon étaient prisonniers de nouveau, ou, qui sait, même mort tout à fait. Il pensa que le moyen de les attirer à Paris était d'y appeler Marguerite. On fit une de ces paix plâtrées, comme savait si bien en faire la reine-mère, et Henri III écrivit à sa sœur de revenir à la cour. Le duc d'Alençon reparut au Louvre. Mais quelques insistances qu'on fit au roi de Navarre, on ne put le déterminer à quitter son royaume. Arrêter ou tuer d'Alençon, ce n'était faire que la moitié de la besogne, et le reste en devenait plus difficile. Henri III se contenta de rager et de se manger les poings en voyant que le renard ne voulait point à toute force tomber dans le piège. Mais il ne lui manquait qu'une occasion et qu'une victime. L'une et l'autre se présentèrent. Joyeuse, le plus cher favori de Henri III, était en mission à Rome. Henri III lui envoya un courrier. Ce courrier était porteur d'une lettre importante et contenant quelques-uns de ses secrets politiques et privés que nous révèlent l'île des Hermaphrodites et les autres pamphlets du temps. Le courrier fut assassiné et la dépêche soustraite. Henri III soupçonna sa sœur et entra dans une rage féroce contre elle. Il l'attaqua en pleine cour, lui reprocha tout haut les désordres de sa vie, lui nomma ses amants, lui raconta ses anecdotes les plus secrètes, de manière à faire croire qu'il était caché dans son alcôve, et finit par lui ordonner de sortir de Paris et de délivrer la cour de sa présence contagieuse. Dès le lendemain, soit que la reine de Navarre eût hâte de quitter le palais où une pareille insulte lui avait été faite, soit qu'elle voulût purement et simplement obéir à l'ordre donné par son frère, elle quitta Paris sans suite, sans équipage et même sans domestique, n'ayant avec elle que le service d'une simple dame, c'est-à-dire deux femmes. Il est vrai que les deux femmes étaient Madame de Duras et Mademoiselle de Béthune. Apparemment, le roi pensa que c'était trop encore pour une princesse qu'il traitait avec cette indignité. Entre Saint-Clair et Palaiseau, un capitaine des gardes nommé Solerne, accompagné d'une troupe d'arquebusiers, fit arrêter la litière de la reine, força celle-ci à se démasquer, souffleta Madame de Duras et Mademoiselle de Béthune et les conduisit toutes deux prisonnières à l'abbaye de Ferrières, près de Montargis, où elles subirent un interrogatoire des plus injurieux pour la vertu de la reine. Mézeray et Varillaz ajoutent même qu'à cet interrogatoire, le roi était présent. Mais sans doute, après réflexion et sa colère calmée, Henri III songea à l'énormité du fait qui venait de s'accomplir et il écrivit le premier à Henri de Béarn, voulant que le roi de Navarre ne tînt la chose que de lui. Le roi était à la chasse aux environs de Sainte-Foy quand il vit arriver un valet de la garde-robe de Henri III qui lui remit une lettre toute de la main de son maître. Celui-ci disait que, pour avoir découvert la mauvaise et scandaleuse vie de Madame de Duras et de Mademoiselle de Béthune, il s'était résolu à les chasser d'auprès de la reine de Navarre comme une vermine très pernicieuse et non supportable auprès d'une princesse de tel lieu. Mais de la manière dont il les avait chassés, mais de l'injure faite à la reine de Navarre, il ne disait pas un seul mot. Henri sourit, comme il avait l'habitude de sourire en pareille circonstance, ordonna que l'on fît grande chaire à l'envoyé du roi, et, se doutant qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire, attendit de nouveaux renseignements. Les renseignements ne tardèrent pas à arriver. Ce fut une lettre de la reine de Navarre. Elle lui racontait l'événement dans des détails qui flairaient la vérité, autant que la lettre de Henri III flairait le mensonge. Le roi de Navarre expédia aussitôt Duplessis Mornay à la cour de France pour supplier en son nom Henri III de lui déclarer la cause des insultes faites à la reine Marguerite et à ses femmes et de lui indiquer comme bon maître ce qu'il avait à faire. Henri III biaisa et l'on n'obtint aucune satisfaction. Marguerite continua, en conséquence, sa route vers Nérac, aux portes de laquelle son mari vint la recevoir. Mais la conduite de Marguerite de Navarre avait ajouté de nouvelles fautes aux anciens griefs que son mari avait déjà à lui reprocher, et, à la suite d'une dispute dans laquelle Henri l'accusa d'avoir eu un enfant de Jacques Chevalon, Marguerite se retira à Agen, ville qui lui appartenait, lui ayant été donnée en dot. Ce qu'il y avait de pis, c'est que l'enfant existait réellement. Ce fils, que Bassompierre appelle le père archange et Duplex le père ange, se fit plus tard capucin, devint directeur de la marquise de Verneuil et fut l'un des agents les plus acharnés de cette conspiration où Henri IV faillit laisser la vie et où le comte d'Auvergne et d'Entragues furent condamnés à mort. Il va sans dire que Henri IV les gracia.